Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio CC à la France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche. Bonne fête des pères à tous. On pense bien à vous aujourd'hui, les papas. Bonne fête papa. Quel bonheur de commencer cette émission avec ce bel hommage que Francis Cabrel rend à son père. La fête des pères, bah, c'est un moment de fête. Hein, et tout à l'heure, je vous ferai découvrir une entreprise française qui a lancé les Escape Games en kit et Made in France, bien évidemment. Et comme vous le savez, dans C'est ça la France, on donne la parole aux entrepreneurs, à ceux qui font le pari du Made in France. Et certains changent de vie pour se consacrer à ce savoir-faire français. Et bien c'est le cas de notre premier invité, pour qui le bois, c'est la vie.
Sud Radio C'est ça la France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Bonjour Xavier Hubert Trube.
Bonjour Nathalie.
Ou Xavier Trube, hein, tout simplement.
Xavier Trube.
Alors, vous avez créé la marque Brut. Des planches en bois, du vrai bois de nos forêts françaises que l'on retrouve dans nos cuisines, à l'apéro. Et cette idée vous est venue pendant le confinement ?
Exactement. Effectivement, comme beaucoup d'entre nous, j'ai passé pas mal de temps en cuisine au confinement. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que les planches que j'avais dans ma cuisine étaient souvent, ou quasiment en exclusivité, des planches en bois collé, en bois exotique, en bambou, ouais. Et pire, en plastique. Et quand on regarde l'origine, rarement de l'hexagone. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc j'ai créé effectivement la marque Brut.
C'est quand même incroyable hein, de se dire que finalement, ça paraît simple pourtant une planche en bois avec du vrai bois, mais ça n'existe quasiment plus.
Voilà, on ne sait pas pourquoi. On s'est fait un petit peu embarquer dans cette industrialisation des années 80, en prenant la facilité sans doute, parce que nos parents, nos grands-parents avaient ces planches en bois brut, en bois massif. Puisqu'il n'y avait pas de colle à l'époque, il ne mettait pas de clous non plus, donc il prenait des planches, il les façonnait à la forme qu'il voulait, et il s'en servait pour couper le pain, le saucisson, la viande.
Ouais, pour tout, quasiment, en cuisine. Alors vous étiez dans l'événementiel.
Alors je suis toujours, ça reprend petit à petit. Effectivement, j'ai une société que j'ai créée il y a 15 ans maintenant dans l'événementiel, en tant que fournisseur sous-traitant des traiteurs notamment. Et effectivement, au mois de mars, avril, catastrophe, tout s'est arrêté. Donc après quelques semaines pour essayer de sécuriser la société, prendre les PGE nécessaires pour tenir l'activité, effectivement, je me suis dit, j'avais vraiment plus rien, plus d'appel. Donc voilà, j'ai commencé à cogiter sur les planches.
À 50 ans, on lance la marque Brut.
Exactement, je l'ai présenté à mes enfants, ce que j'appelle mon comité de direction. Ma femme Anne et mes enfants, mes trois enfants. Le jour de mon anniversaire, mes 50 ans, j'ai dit, voilà, papa va vous présenter un projet qu'il a imaginé depuis trois semaines. Et c'était ça, c'était Brut.
Une gamme de planches en bois massif éco-gérées, non collées, ça c'est important, façonnées à la main et dans un atelier d'insertion
dans
le travail.
En fait, quand j'ai commencé à réfléchir sur le projet, donc j'ai dit, bon voilà, il me faut du bois. Donc ça, j'ai commencé par téléphone et par mail à contacter des scieries dans la région des Hauts-de-France. J'ai trouvé plusieurs partenaires. J'en ai sélectionné un que j'ai pu rencontrer par la suite. Et ensuite, effectivement, je me suis dit, tiens, comment j'ai fabriqué ça? J'ai pas les moyens, moi, personnellement, de faire, je ne sais pas, 3 ou 10 planches par jour. Il faut que je trouve un atelier. Et j'avais visité, il y a 2 ans, l'atelier Vitamine T à Léquin, qui fait de l'insertion par le travail, comme son nom l'indique, et qui fait, voilà, qui a un atelier bois, qui fait beaucoup de meubles en bois de palette récupérés. Et je suis allé les voir, je leur ai présenté un prototype, et ils m'ont dit, est-ce que vous êtes capable de, si je vous apporte le bois, de le façonner? Et bien sûr, on s'est entendu là-dessus.
Donc, on a des planches en bois brut, des matières premières, on l'a dit, locales, donc entièrement 100%. Recyclables.
Totalement, puisqu'on est en forêt éco-gérée par l'ONF, hein, l'Office National des Forêts. Donc, des bois exclusivement des Hauts-de-France, qui sont sciés près de Béthune, qui vont ensuite à l'atelier à Léquin. Donc, tout est dans un écosystème, finalement, assez restreint.
Hein, 100% made in Nord, Hauts-de-France.
Oui, on le revendique pas forcément, mais effectivement, on a pris la logique. Quoi. On a cherché du bois, on a trouvé l'atelier, on va pas aller chercher à l'autre bout de la France, alors qu'on en a sous la main. Ensuite, pour l'emballage aussi, on a sélectionné du lin, il y en a plein dans le Nord et en Normandie.
Nous sommes les premiers producteurs au monde de lin.
Exactement. Donc on a trouvé la maison Charvet à Armentières, où ces lins sont tissés, 100% France, et ensuite ils sont les pochons, puisque chaque planche est emballée dans son pochon. Chaque pochon est cousu dans l'atelier d'insertion aussi, qui a une partie textile, qui nous fait les pochons. Et on y a rajouté un petit ruban qui est là aussi tissé en France, à Comines, juste à la frontière.
Comment vous les sélectionnez, les bois? Parce que vous avez différentes planches devant vous, je vois bien que ce sont des essences différentes.
Oui, alors on a sélectionné le chêne, pour son côté assez noble, et puis dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment un beau bois, un bois noble.
Donc ça, c'est plus les planches de présentation, du
Exactement,
coup.
Des planches de présentation pour apéritifs, tapas, sushis, fromage. Il y a toutes les formes, on a plus de 20 modèles au total.
Les moments des fêtes en famille.
Exactement, des moments de partage, d'apéritifs. Et puis on a une gamme aussi en frêne, plus épaisse, pour tout ce qui est découpe de pain, de volaille, de
Pourquoi le frêne d'ailleurs pour la découpe? En quoi c'est mieux que le chêne?
En fait, c'est un bois un peu plus tendre que le chêne, qui a moins de tanin et qui est plus conseillé pour la découpe.
Donc une fois qu'on a cette idée, votre famille déjà, comment est-ce qu'elle a réagi quand vous dites que vous êtes allé voir votre conseiller, enfin votre
comité de direction,
donc votre femme, vos enfants, oui. Comment ont-ils réagi quand vous leur avez dit, allez hop, je me lance dans les planches en bois, les planches en bois
brutes. J'aurais déjà fait le coup il y a quelques années en créant un site qui s'appelle vincopain.com. Il y a 10 ans, j'aurais dit, tiens, papa, il va créer un site sur le vin.
C'est vrai que j'ai oublié de préciser que ça fait 3 fois que vous changez de vie, c'est ça?
Voilà. En fait, sans changer de vie, je complète. Je rajoute une corde à mon arc, hein, finalement, parce qu'il y a effectivement la société de distribution auprès des traiteurs, le vin il y a 10 ans, et là, récemment, le bois. Voilà, c'est un enchaînement, on ne sait pas trop d'où les idées viennent, mais voilà, c'est naturellement, ça s'est fait comme ça.
Et finalement, c'était une évidence, le bois, c'est une histoire de famille. Votre grand-père était déjà forestier,
Il était responsable de l'ONF, justement, de l'Office national des forêts à Lille, juste après la guerre. Et donc il a fait toute sa carrière à l'ONF. Donc moi je l'ai pas connu, mais voilà, il a œuvré dans les forêts françaises. Donc effectivement c'est peut-être un beau symbole et un bon retour aux sources.
C'est ça. Finalement. Vous retournez. Le bois c'est le lien de toute cette famille. Ça fait partie de l'histoire familiale.
Comme nous tous, je pense, le bois on aime ça, le toucher du bois. Quand on rentre dans l'atelier, ça sent le bois. Quand vous râpez du chêne, ça sent super bon. Quand vous mettez votre tête dans un tonneau de bois, c'est magnifique. Quand vous faites un feu de bois, c'est chaleureux. Quand vous travaillez le bois, c'est agréable.
Une maison en bois, c'est chaleureux tout de suite.
Une maison en bois, c'est très à la mode. Un parquet, ça remplace mille fois un carrelage. C'est beaucoup plus durable aussi. Ça se ponce, ça se renouvelle, ça se patine. Comme nos planches, elles vont se patiner, elles vont vivre avec vous. Plein de bons moments, sans doute.
Ouais, c'est vrai que ça se garde toute une vie. Et même, ça se transmet de génération en génération.
On a retrouvé chez mes parents une planche en bois de cette épaisseur-là, effectivement, qui avait sans doute traversé les âges.
Une épaisseur de 3 cm.
Alors sur le chêne, effectivement, on est plutôt sur 2 cm.
Pour les présentations.
Voilà,
et pour la
sur le frêne, on est à 3 cm.
3 cm.
Parce qu'on a une rigole d'un centimètre de profondeur qui est assez importante. Donc on a besoin de ça pour la stabilité et la solidité de la planche.
Donc une fois qu'on a fabriqué les planches, qu'on a l'idée, qu'on a l'entreprise, comment vous faites? Alors vous êtes parti taper aux portes des restaurateurs. Comment fait-on pour
justement découvrir ces planches? J'ai créé un site parce que je me suis dit, j'ai pas de moyens de distribution. J'ai créé un site internet. Donc comme j'avais le temps pendant le confinement et l'activité à l'arrêt, j'ai créé un site tout seul. Donc j'ai fait les photos. J'ai mis ça en ordre. J'ai pris j'ai organisé. On a travaillé les modèles. Et puis après, effectivement, Instagram, c'est ma femme qui s'en occupe.
Elle le fait. Donc c'est vraiment une histoire de famille.
Ah oui, avec beaucoup de brio et beaucoup de talent. Elle prend chaque jour, elle cuisine beaucoup. Et chaque jour, elle présente sur Instagram, notre compte Planche Brute. Vous verrez, effectivement, elle présente ce qu'elle cuisine ou ce qu'elle a présenté. Ou dès qu'on a un gâteau, une baguette de pain. Donc voilà, on fait vraiment vivre ces planches au quotidien.
Et alors, ça a été lancé pendant le confinement, donc ça a un peu moins de 2 ans d'existence.
Le site a ouvert en décembre seulement, il y a 6 mois.
Alors du coup, vous en êtes où aujourd'hui?
On a des ventes sur Internet, et puis quelques boutiques, notamment sur Lille, puisqu'on est basé à Lille, hein, rue Princesse. Et donc, on vend dans ces boutiques-là, et là, on, grâce au réseau sans doute, hein, on a des commandes sur de restaurants. Encore hier, un restaurant gastronomique sur Lille qui nous a pris des planches à la fois pour présenter les apéritifs, la charcuterie, et des planches pour présenter à table sans doute des belles pièces de viande lors de la découpe.
Alors, en général, ceux qui sont intéressés par vos planches, c'est parce qu'elles sont faites en France, c'est parce que non, ils sont contents de retrouver des vraies planches en bois?
C'est un ensemble. C'est un ensemble. On a eu la chance de livrer à Guillaume Gomez à l'Élysée une planche. Et sa réaction...
Alors Guillaume Gomez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le chef des cuisines de l'Élysée pendant près de 20 ans, c'est ça?
Oui, quasiment. Un mec adorable.
Et qui vient de partir il n'y a pas très longtemps.
Un mec adorable, j'ai d'ailleurs toujours contact avec lui. Et lui, il a reçu la planche et il m'a tout de suite appelé pour me dire bravo, c'est magnifique. C'est tout simple, mais c'est magnifique. Donc là, on se dit, bon, quand un mof comme ça, un grand chef vous dit ça...
Un meilleur ouvrier de France, oui.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup Xavier Trubbe.
Merci de votre invitation en tout cas.
Vous avez créé la marque Brute. Merci et bonne fête également. Enfin, je suis pas votre fille,
oui.
Mais j'imagine que c'est la fête des pères, de tous les papas.
Je suis papa. Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Merci à vous.
Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après. On vous parlera des escape games, kit en kit et surtout made in France. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, notre émission consacrée au papa, à la fête des pères. On vous fait découvrir des entrepreneurs qui s'engagent comme toujours. Et tout de suite, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir l'escape game kit 100% made in France. On en parle tout de suite, c'est un escape game 100% déconnecté chez soi, dédié aux ados et aux adultes.
Sud Radio C'est ça la France, midi, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes avec Manon Gilbert de Escape Kit. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors pour la fête des pères, pourquoi pas jouer justement avec ces escape games qui prennent de l'ampleur. Est-ce que vous pourriez déjà nous définir ce qu'est un escape game?
Alors un escape game, c'est un concept de jeu à mi-chemin entre la chasse au trésor et le jeu de société à faire à la maison. Donc on l'a revisité à l'adapter, donc on s'amuse un petit peu à aller de pièce en pièce dans la maison, à fouiller, à résoudre des petites énigmes, aussi bien en famille qu'entre amis, pour les petits et pour les grands, et on s'amuse voilà, de manière ludique et créative.
C'est un jeu d'évasion, hein, c'est ça? On doit
un
quitter la pièce. Mais ça vient d'où ça? Moi j'avais lu que ça venait du Japon, c'est bien ça?
Non, pas du tout, ça a été réalisé en France.
Non, les origines de l'escape game.
Exactement, à l'origine ça vient du Japon et en fait nous on l'a revisité en France pour l'adapter à la maison.
Alors expliquez-nous justement en quoi le escape kit hein, que vous proposez se distingue de ce que l'on peut trouver. C'est-à-dire qu'on imprime tout chez soi, c'est ça vraiment, on télécharge les différents indices.
Oui, c'est ça. En fait, vous choisissez l'aventure de votre choix. Donc, vous avez tout plein d'univers inspirés de l'école des sorciers, inspirés de super-héros. Vous avez plein de thèmes aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ensuite, vous recevez immédiatement votre jeu par mail. Vous téléchargez, vous imprimez et il n'y a plus qu'à installer et à jouer rapidement.
Donc, c'est aussi bien pour les adultes et les enfants. L'idée, oui. C'est vraiment de transformer son intérieur en une chasse au trésor.
Oui, tout à fait. On rentre dans un univers, voilà, vous avez tout qui est créé. En fait, c'est des jeux totalement complets. Vous avez des fiches d'énigmes, vous avez des guides d'installation, d'impression. Vous avez une playlist dédiée à chaque thème pour vraiment vous immerger dedans. Vous avez des accessoires, un décompte. Voilà, vraiment, tout est fait pour que vous n'ayez plus qu'à rentrer dans un univers et de vous amuser à la maison.
Donc, ces escape kits sont 100% français. Comment vous travaillez? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est dédiée à la recherche d'énigmes ou bien ce sont des traductions d'énigmes qui existent déjà à l'étranger ou bien c'est spécifiquement français?
Du tout, on travaille avec une freelance justement qui nous crée les énigmes, qui nous envoie le jeu de manière un peu plus ou moins brute. Et après, on a des graphistes, il y a l'équipe de communication, etc. qui est chargée de vraiment retravailler le jeu, de faire le storytelling de l'histoire, vraiment pour immerger le plus possible. Voilà, dernièrement, on a sorti le jeu inspiré de d'Arsène Lupin et donc on s'est inspiré des actualités. Donc on essaie de suivre ces tendances-là et le but c'est vraiment d'immerger les gens dedans.
Donc une fois le jeu, les énigmes créées, donc la fabrication elle se fait où de ce escape kit?
Dans nos locaux. Dans nos locaux en fait on se fait vraiment ça en équipe, on fait des brainstorms pour trouver le titre, pour trouver les idées, pour améliorer le jeu. Parce qu'en fait, la freelance qui nous crée nos énigmes, voilà, elle nous envoie le jeu brut. Et après, c'est à nous de relier, de trouver un lien entre elles, entre les énigmes, pour vraiment retrouver ce concept d'escape game de base.
Et comment vous expliquez alors le succès de ces escape games?
Alors, c'est assez étonnant, mais c'est vrai que ça a pris une grande ampleur avec le confinement. Donc, les gens, voilà, ils ont vraiment besoin. Ils étaient un peu en recherche d'évasion, de jeu. Puis, ça vraiment, ça favorise les échanges. Ça crée un moment de partage. Il y a les émotions qui jouent. C'est un moment de rire. Voilà. Ça rapproche les gens entre amis, en famille. C'est génial.
Non, ce qui est marrant, c'est que finalement, en général, dans un jeu de société, on est tous autour d'une table. Alors que là, le terrain de jeu, il est beaucoup plus grand. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a une personne qui va cacher tous les indices.
Oui, voilà.
Donc, il y a un membre de la famille qui est complice du jeu.
Voilà, c'est ça. Il faut que quelqu'un se dévoue voilà, pour faire l'organisation. Donc, un petit guide d'installation et d'impression qui est prévu pour vraiment vous guider au maximum, pour vous faciliter la tâche. Il suffit ensuite de suivre, d'installer, d'imprimer les choses. de les cacher dans les endroits de la maison. Mais ça peut jouer aussi bien dans une maison que dans un appartement. Et puis, si c'est possible, dans une caisse principale, ouais. C'est tout à fait possible.
Donc, pour des moments de fête avec les enfants, en famille, entre adultes.
Beaucoup pour les anniversaires, dans les écoles, pour les centres aérés. Enfin, voilà, vraiment partout.
Alors, Escape Kit a été créé en quelle année ?
Ça a été créé en 2019.
Alors, quel bilan vous dressez ? 2019, 20, 21, 3, 2, 3 ans après ?
C'est plutôt bien. C'est vrai que le confinement nous a beaucoup aidé et on a de plus en plus de demandes. Les gens ont vraiment apprécié le concept.
C'est quoi la prochaine étape ? C'est continuer à gagner en notoriété ? C'est décliner ? Quels sont les projets d'Escape Kit ?
Alors, développer la notoriété, donc, toujours, et puis proposer toujours de nouvelles aventures. C'est vraiment notre projet à l'écoute des clients.
Parce que ce succès des Escape Games, ce n'est pas uniquement en France ou au Japon, c'est dans le monde entier.
Non, ça se développe énormément.
Est-ce qu'il y a une volonté de traduire votre Escape Kit pour essayer de le vendre hors de nos frontières ?
Tout à fait. En fait, actuellement, on traduit déjà les jeux en espagnol et en anglais. Et puis, voilà, à la rentrée, notre gros projet, c'est de se développer en Allemagne.
Merci beaucoup, Manon Gilbert. Donc, je rappelle que vous travaillez à la communication de Escape Kit. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui ?
On est une équipe de 7 et on passe à 8 à la rentrée.
C'est bien et ça embauche en plus.
C'est génial.
Merci beaucoup, Manon Gilbert, pour ce témoignage. Bon dimanche.
Journée.
Au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, je crois que votre rencontre d'aujourd'hui a également un rapport avec la fête des pères.
Mais oui, car l'artisan que j'ai rencontré fabrique ou répare des objets qui peuvent être des cadeaux chics pour la fête des pères, comme des seaux à champagne, sets de couteaux, ou même des coupe-papiers en métal argenté. Et vous l'avez compris, ce sont tous des pièces d'orfèvrerie. Et l'artisan orfèvre que j'ai rencontré est l'un des derniers à Paris. Il s'appelle Camille Gras.
Un joli prénom. Le prénom de mon fils.
Je l'ai rencontré dans son atelier, dans le quartier historique des artisans, dans le 11e arrondissement. Pour commencer, je lui ai demandé de nous donner la définition de ce savoir-faire qui est très ancien.
Alors l'orfèvrerie, c'est l'art de la table, c'est l'argenterie. Donc ça va comprendre tout ce qui est couvert, couteau, fourchette, cuillère, etc. Et après, tout ce qui va servir pour manger, pour la table justement. Donc on va avoir les assiettes, des plats, des plateaux, tout ce qui est service à thé. On peut avoir après des seaux à champagne, etc. Donc après, on a développé énormément, puis ça varie aussi sur l'art décoratif aussi. Donc on va avoir les chandeliers, bougeoirs, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, des vases. C'est assez, en général, c'est voilà, des gros objets.
Le point commun à tous ces objets, c'est vraiment le matériau, un matériau noble.
Oui, c'est en travail les métaux nobles, donc c'est exactement ça. C'est donc les métaux nobles, donc ça va être l'argent massif qui est vraiment le très haut de gamme, et après ça va être l'éton bronze qu'on va argenter ou dorer, et cuivre et l'étain.
Alors, je crois savoir que le savoir-faire, il n'a quasiment pas changé. On m'a dit que vous travailliez avec les outils d'autrefois, quasiment.
En fait, les techniques n'ont pas évolué, l'outillage non plus. Moi, j'ai de l'outillage, il a entre 100, 200, 300 ans. J'ai certaines formes en acier qui
donc,
datent énormément.
On peut décrire cet outillage ?
Ça aide beaucoup tout ce qui est les formes en acier, ressingles, etc., qui servent justement pour le débossage ou la mise en forme du métal.
D'accord.
Et là, on les a au fond de l'atelier, là, donc... Ça pèse une tonne.
Alors, il y a une spécificité, je crois que ce métal, vous le travaillez à froid, c'est ça ?
Oui, alors dans l'orfèvrerie, on travaille tout à froid. C'est-à-dire que la mise en forme, en tout cas, on n'est pas comme les forgerons ou les chaudronniers, surtout les forgerons, où ils vont travailler l'acier à chaud. Nous, le métal, on le travaille à froid. En fait, on le recuit, c'est-à-dire on le chauffe à rouge et on le laisse refroidir. Pour qu'il soit plus malléable, en fait, on détend les molécules. Une fois qu'il est justement détendu, on peut le travailler donc au maillet, au marteau, à la main. Ça dépend quoi, quelle épaisseur, etc. Et une fois à force de le travailler, il va s'écrouir, il va se durcir. Et une fois qu'il est trop dur, avant, on va le recuire justement pour le redétendre.
C'est quand même fascinant d'imaginer que Camille travaille avec des outils qui ont 3 siècles.
Ben oui, la technique n'a absolument pas bougé. Tous les objets sont travaillés à la main. Camille m'a expliqué, en fait, c'est très compliqué pour une machine de reproduire ces gestes qu'il fait. De toute façon, ce ne serait pas rentable parce qu'il fait uniquement des petites séries.
Et qui sont ses clients à Camille ?
Ben, c'est très varié. Il y a des particuliers, il y a des professionnels dans le luxe ou la restauration. Mais il va nous expliquer ça.
Maintenant, on a vraiment du monde entier parce qu'on a de la chance que l'orfèvrerie française soit reconnue
internationalement.
Ouais, dans l'international. C'est-à-dire qu'on a la réputation du haut de gamme en France. Mm-hmm. Donc, vraiment un savoir-faire classique, très français et raffiné.
Alors, c'est quoi comme commande ? C'est quoi ? C'est de la réparation ? Ce sont des pièces uniques que vous créez pour eux ?
Alors, ouais, on a de tout en fait. On a une partie restauration. Donc là, on va être pour le particulier, des collectionneurs, beaucoup d'antiquaires. Aussi des restaurations pour les restaurants, palaces, etc. Et après, on a une partie aussi fabrication. Donc soit on va être de la pièce unique, de la pièce haut de gamme, donc argent massif. Sinon, de la petite série pour des designers aussi. Après, on a les autres maisons de luxe aussi pour qui on fabrique.
D'accord.
Eh bien, comme Camille nous l'a rappelé, hein, c'est vrai que l'orfèvrerie française est synonyme de prestige. Elle rayonne à travers le monde. C'est une très belle entreprise du patrimoine vivant. Je le rappelle, on compte près de 1400 au maximum, ouais, 1400 entreprises françaises qui ont ce prestigieux label, un label d'État. Il y a un site où on peut retrouver justement le travail de Camille.
Bah oui, www.camilleorfèvre.fr.
Ben voilà, donc on a parlé de bois, de métal, d'escape game. On vous souhaite à tous une très belle fête des pères, il y a de quoi s'amuser. Merci beaucoup Thibaut.
À bientôt Nathalie.
Merci à vous chers auditeurs, on va se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure et bien évidemment même radio. Pour ceux qui sont arrivés en retard ou les nostalgiques de cette émission, que j'espère nombreux, vous pouvez la retrouver en podcast sur sudradio.fr. Merci à vous, rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. Allez, on se quitte avec « Mon papa à moi est un gangster » de Stomy Bugsy. Encore bonne fête des pères à tous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.